cours à deux voix, la voix de l'évêque et la mienne, puisque j'irai exactement dans son sens. C'est vraiment le chant de l'Esprit Saint. C'est ça d'amour à deux voix. Et en abordant deux thèmes, le premier je l'ai intitulé « Entre laxisme et l'égalisme, le sourire du bon pasteur », c'est le ton d'Amoris Laetitia. Puis en seconde partie, les divorcés, les remariés, invités à la joie de l'amour du pape François. Voilà, si je suis ici parmi vous, c'est aussi grâce à un vieux jeune qui est dans notre séminaire, Sandro, de langue italienne, comme son nom le dit, qui s'est proposé de me conduire. Ça allait plus vite, alors merci Sandro pour cela. Sinon, qui suis-je? Je suis le père Joël, je préfère qu'on m'appelle comme ça que le père Pralon, parce que je suis plutôt court, donc comme ça, ça va mieux. Et j'étais d'abord soignant, donc infirmier en psychiatrie, je travaillais 5 ans dans les hôpitaux, avant de devenir prêtre. J'étais curé, vicaire, enfin, durant 30 ans, c'est pas mal. Donc j'ai rencontré pas mal de monde. Puis il y a bientôt 4 ans, mon évêque est venu me demander si j'étais d'accord d'être le supérieur de notre séminaire. Et je lui ai dit, mais je ne suis pas théologien. Et il m'a dit, j'ai besoin d'un pasteur. Alors sur ce, j'ai dit oui, parce que je suis un passionné de la pastorale, donc j'ai beaucoup accompagné aussi de personnes blessées. Mon évêque m'a confié l'accompagnement des jeunes homosexuels de mon diocèse. C'est un ministère très beau aussi, très riche, très important aussi. C'est aussi l'accompagnement d'une fragilité. Et c'est pourquoi j'aime à dire de manière un peu provocatrice, le divorce n'existe pas, l'homosexualité n'existe pas. Alors les gens me regardent avec des gros yeux, mais ils disent, mais il tombe douce celui-là. Et je dis non, parce que moi je côtoie des personnes comme vous, fragiles. Le reste sont des définitions que l'on donne. Et le danger des définitions, c'est d'enfermer les personnes dans ce qu'on dit, dans ce qu'on perçoit, dans ce qu'on sait, dans ce qu'on connaît. Mais chaque personne est un mystère qui peut percer vraiment le cœur de l'homme. Et là, on doit être humble dans l'approche des personnes. Alors, premier point, Monseigneur nous l'a dit, nous sommes tous marqués par une détresse. C'est le point commun de toute l'humanité. À l'origine de cette détresse, il y a un manque, une carence, une vulnérabilité. Et quand on est vulnérable, on est ouvert à toutes sortes de maladies, à toutes sortes de virus, de grippes, de maladies infectieuses. On peut se casser une jambe, pas besoin d'aller chercher très loin. Déjà physiquement, on est vulnérable. Psychologiquement aussi, profondément, on est vulnérable. Vite blessable. Il suffit d'une petite parole pointue qui nous ferme pour toute la journée. Et les petites paroles qui nous blessent, puis bon, finalement on passe par-dessus, mais il y a les grosses blessures qui remontent parfois, souvent à l'enfance, qui nous ont repliés sur nous-mêmes, qui ont handicapé notre relation. Ce qu'on appelle ces blessures d'amour qui provoque cette panique parfois en nous-mêmes, mais le message est toujours le même derrière cette panique, cette angoisse, ce sentiment de culpabilité que l'on porte. Mais suis-je aimé? Va-t-on m'aimer? Va-t-on m'accepter? Toujours cette angoisse d'être rejeté. Et on a toute la petite Thérèse qui est là. Thérèse a vécu ces symptômes d'abandonnique, comme on dit dans le milieu psychiatrique. Où on a cette angoisse panique qu'on ne nous aime pas. Thérèse se replie sur elle-même. Elle est captatrice d'amour des autres, même si Dieu l'habite, bien sûr, jusqu'au moment de sa conversion de Noël 86. On retrouve Thérèse dans tous les blessés de l'amour. Dans tous les blessés de l'amour. Assainie encore de ce complexe de culpabilité, mais enfin... Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on ne m'aime pas? Et cette vieille culpabilité qui remonte à cette vieille histoire, cette vieille parabole photocopiée à des milliards d'exemplaires. Mais Adam, mais où es-tu? J'ai eu peur et je me suis caché. Ce cri de l'homme, des débuts de l'humanité, j'ai eu peur parce que j'ai peur que tu viennes me faire du mal. Oui, toi aussi, Dieu, j'ai peur que tu viennes me faire du mal. Alors combien plus cette peur nous habite, qu'on vienne nous faire du mal, d'où l'autre, souvent vécu comme toujours un ennemi potentiel, et il faut s'en protéger. Et comme dit la psychologie moderne, depuis tout petit, on met en place des mécanismes de défense contre l'angoisse. Quand cette angoisse qu'on vienne me faire du mal, ces mécanismes de défense qu'on peut appeler l'agression, la fuite, le déni, la mythomanie, le légalisme aussi, c'est terrible comme le légalisme, ceux qui s'accrochent uniquement à la loi. C'est un mécanisme de défense parce qu'ils ont tellement peur d'eux-mêmes, tellement peur d'aller au fond d'eux-mêmes, qu'ils s'accrochent à ce que dit la loi, à ce que dit l'Église, mais ils n'entrent pas en eux-mêmes et ils deviennent psychorigides. C'est pourquoi je dis souvent à mes séminaristes, vu que je suis aussi responsable de l'année propédeutique, première année, quand je les vois arriver la tête un peu à midi 5 ou à midi moins 5, vous voyez, je leur dis, écoute, j'ai pas besoin d'un saint en face de moi, moi je veux un homme, c'est plus facile. Et puis ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as au fond de toi. C'est pas tellement ce que tu es en train de montrer. On peut avoir plein de mécanismes de défense en moi. Aujourd'hui, il y a tout cet intérêt pour la liturgie, et c'est très beau la liturgie, mais quand on est centré sur les dentelles, sur les chandelles, ou que sais-je encore, sur les positions, sur les... Il y a toujours quelque chose qui est à chercher derrière cela, ou sur le légalisme. La doctrine dit ça, c'est comme ça. Voyez, qu'est-ce qui se cache dans l'homme qui s'accroche aux règles, aux formes? C'est un mécanisme de défense parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a des peurs. Parce qu'il y a des peurs d'aller au fond de soi, parce qu'on a peur de ces, on a peur de ces pièces de notre personnalité qu'on a verrouillées à double tour et qu'on n'a jamais osé ouvrir. En blessure d'amour, blessure de l'intelligence aussi. C'est cette blessure, cette frustration de ne pas pouvoir tout connaître, d'être limité, de devoir avoir besoin des autres, de ne pas pouvoir toujours tout maîtriser, d'être parfois dépendant des autres. Et combien je l'ai vécu en hôpital. Monsieur tout le monde, que ça soit un directeur haut placé sur l'échelle sociale, et tout en bas, je me suis rendu compte que creux d'un lit d'hôpital, l'homme est un enfant. Parce que l'homme pleure, il a mal, il a besoin d'être consolé, caressé, rassuré, aimé, si bien que je me disais, mais au fond, quelle est notre identité profonde? Et ma réponse était très claire, l'homme est un enfant. C'est un enfant qui est sans cesse en quête de parents. En quête, et il l'a dit, de ce père au cœur de mère. Mais il a tellement peur au fond de lui. Parce que ce Dieu fait peur. Comme Thérèse qui a été éduquée dans une ambiance janséniste où il fallait rendre des comptes à Dieu. Vous voyez, il lui a fallu vivre cette conversion de Noël 86, c'est quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé au moment de cette conversion. Thérèse, c'est une enfant, et une enfant blessée, repliée sur elle-même. Comment aller vers Dieu, ce Dieu tellement immense, grandiose, lointain, à qui on doit rendre des comptes? Il faut même se protéger de ce Dieu-là, par le légalisme. Ou alors par le laxisme, mais non, ce Dieu laisse tout aller, ce Dieu est bon, de toute façon on est toujours pardonné, vous voyez, autant dans le laxisme que dans le légalisme, on ne se responsabilise plus. On a peur de soi, de Dieu, des autres, on se verrouille derrière des défenses. Thérèse est verrouillée derrière une défense qui s'appelle le perfectionnisme, le légalisme, elle n'en sort pas. Tellement elle a peur de ne pas faire juste. Parce que si elle ne fait pas juste, elle va être éjectée, abandonnée, elle ne sera pas aimée. Et dans la nuit de Noël 86, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est à comprendre. En regardant l'enfant de la crèche, Thérèse se voit elle-même enfant. Mais enfant blessé, rejeté. Parce que l'enfant de la crèche, c'est Dieu. Ce grand Dieu devient ce Dieu tout petit, enfant rejeté, abandonné, refusé. Et Thérèse se retrouve dans cet enfant. Elle va comme s'identifier à l'enfant de la crèche. Dieu, c'est un enfant, je peux aller vers lui. je peux le regarder, même si je suis faible, parce qu'il est plus faible que moi. Thérèse va s'identifier à l'enfant de la crèche et devenir quelque part l'enfant de la crèche. On pourrait faire tout un développement sur la grâce du baptême à ce moment-là. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, et moi je t'aime, et je t'aime d'autant plus parce que tu es faible, parce que tu es dans l'échec. Et en descendant dans le Jourdain, je descends dans tes peurs, dans ton marasme, dans ta boue. Je viens te tirer de là. Je viens te tirer de là. Et au moment où je te saisis, il y a le ciel qui se déchire et cette voix du Père. Tu es mon enfant bien-aimé et moi je t'aime. Voilà ce que découvre Thérèse de l'enfant Jésus, parce qu'elle va découvrir son identité profonde qui est d'être enfant du Père et donc aimé de Dieu à la folie, quelle que soit sa vie, quelles que soient nos vies. Et Thérèse de la Sainte Face, puisqu'elle va découvrir en regardant la croix, que cet enfant faible deviendra plus tard sur la croix l'enfant blessé, mortellement, rejeté. Et qu'est-ce qu'elle voit quand elle regarde la croix? Que voyons-nous lorsque nous regardons une croix? Nous voyons nos propres blessures, non plus sur nous-mêmes, parce qu'on s'est identifié à Jésus par le baptême, mais je vois sur Jésus mes propres blessures, donc je peux me décentrer de moi-même pour le regarder lui et me voir en lui. Mais quand je le regarde, cet enfant se crucifié, c'est quand même Dieu. Et c'est celui qui me dit, mon enfant, je t'aime. Et bien plus fort que tes blessures, bien plus fort que ton péché. Si tu tombes par terre, je suis par terre. Si tu tombes au fond du gouffre, je suis le fond du gouffre, car nul ni personne ne peut aller plus bas que moi. C'est cela quand on regarde une croix, quand on regarde l'enfant, c'est le grand message de Thérèse. Notre identité profonde, ce n'est pas d'être marié, divorcé, prêtre, homosexuel ou que sais-je encore, c'est d'être enfant du Père, c'est cette identité profonde qui ressuscitera et qui va illuminer toutes les autres couches de notre être, de nos fonctions, de nos états de vie, de nos engagements, qui peuvent être complètement broyés par la vie et un jour par la mort, mais seul résiste cet enfant qui n'a pas peur de regarder Dieu droit dans les yeux et de lui dire « Abba, Père, j'ai confiance en toi et je sais que tu m'aimeras ». Jusque dans mon éloignement le plus total. Car je sais que tu quittes le troupeau souvent pour me chercher et me rechercher encore. Il faut juste que je me laisse trouver, car nul n'est trop loin pour Dieu. Et il y a cette belle rencontre en Jean 4, ce dialogue avec la Samaritaine. Tout le monde l'a en tête. Et il y a là toute la clé de la pastorale. La Samaritaine qui a son sixième mari, on peut comprendre qu'elle est blessée, elle a cherché de mari en mari, d'aventure en aventure, elle ne trouve pas l'amour. Et voilà que Jésus, le Fils de Dieu quand même, s'assied sur la margelle de son cœur, c'est un puits dans l'évangile, elle lui dit pas, dis donc, t'as des problèmes toi, veux-tu qu'on en parle ? Puis on va essayer de trouver une solution. Non. Il lui dit, lui, Dieu, le Fils de Dieu, j'ai besoin de toi. Extraordinaire. Donne-moi à boire. J'ai besoin de toi. Voyez, quand on peut aller vers celui qui souffre, qui est dans une situation où il a mal, et lui apparaître non pas comme un supérieur qui sait, qui vient prêcher la vérité, mais comme un frère de cœur et de sang, et qui est capable de se mettre à sa hauteur pour lui dire simplement « Je suis comme toi. Moi aussi, je suis un être blessé. Je ne suis pas plus que toi. Aujourd'hui, tu souffres plus que moi, peut-être. Mais moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que toi aussi, tu me donnes Dieu. » Et puis ensemble, on va chercher le chemin, celui qui va t'aider à t'en sortir. Alors cette femme, elle est troublée, bien sûr, on ne parle pas avec un juif, elle est samaritaine, et petit à petit dans ce dialogue autour du puits qui est finalement le cœur profond de chacun ensablé, qui empêche la confiance de jaillir, cette eau vive, cette femme va saisir, elle va descendre petit à petit au fond d'elle, pour dire à un moment donné à Jésus, « Seigneur, donne-moi de cette eau vive, que je n'ai plus besoin de venir puiser au puits. » Et c'est quand elle découvre cette eau vive au fond d'elle que Jésus lui dit, « Va chercher ton mari, la vérité. » Et elle va prendre conscience que ce n'est pas son mari, qu'elle est blessée, qu'elle est en recherche, voire en situation de péché. Mais ça, c'est elle qui le découvre par elle-même. Parce qu'elle a rencontré un regard d'amour qui l'a aidée à aller au fond de sa détresse pour trouver quelle en était la cause. Voyez-vous, on n'a pas, comme on entend souvent aujourd'hui, à aller prêcher la vérité aux autres, ni la doctrine, mais à les aider à faire la vérité sur eux-mêmes, à trouver la vérité en eux-mêmes. Et voyez-vous, la vérité, dans l'évangile, a un nom, c'est Jésus. Ce n'est pas une doctrine. C'est Jésus qui s'assied sur la margelle de notre cœur et nous dit « Comment vas-tu ? Je veux rentrer dans ton histoire, je veux t'écouter, je veux marcher avec toi, je veux chercher avec toi la cause de ta détresse, car la clé, c'est la détresse. Moi aussi, je suis un être en détresse, parce que je suis blessé, comme toi. Alors ensemble, si tu veux, on va chercher la cause de ta détresse. » Qui peut être une blessure, j'ai été blessé par d'autres, qui peut être une situation de péché aussi. Vous voyez, souvent, on dit, il faut parler du péché, oui. Il faut dire, dans la vérité, voilà, vous êtes en situation de péché, vous êtes, bon, etc., etc. Mais les gens, ils vont pas comprendre, ils vont dire, ça y est, l'Église continue de nous culpabiliser, continue de nous parler du péché. Moi, ça fait longtemps que je parle plus du péché aux gens, mais je leur parle de leur détresse. Parce que la détresse, c'est ce qu'ils vivent. Le péché, souvent, c'est quelque chose qui est écrit, on fait référence à quelque chose qui dit, voilà, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Mais les gens, ils disent, ils comprennent pas. Mais si on leur dit, mais tu souffres, oui, si tu veux, on va essayer de chercher avec toi la cause de ta souffrance. Vous voyez, il faut partir du vécu des personnes. Il ne faut pas leur bassiner une théorie qu'ils ne saisissent pas ou qui risque encore de les écraser. Et à partir de là, on va les conduire à la confiance. Quelle est finalement cette eau vive qui se révèle dans Jean 4? C'est quoi cette eau vive? Bien sûr, c'est un symbole. Mais réellement, ce symbole nous conduit à une relation. Et cette relation, je l'ai trouvée en Romains 8, 13, 17. C'est quoi cette eau vive? C'est le symbole de l'Esprit Saint. Il a parlé du cœur ouvert tout à l'heure, le don de l'Esprit. L'Esprit Saint, c'est quoi? C'est une relation d'amour, c'est une relation de confiance. Lorsque la Samaritaine trouve l'eau vive, c'est-à-dire que Jésus l'a fait entrer dans une relation de confiance avec Dieu. Romains 8, vous n'avez pas reçu un esprit qui vous lie, je paraphrase, à la peur de la loi, à la peur de ne pas faire juste, à la peur du regard des autres, à la peur du jugement des autres. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous lie à la peur, vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils et des filles du Père, et c'est dans cet esprit, dans cette relation de confiance que vous pouvez regarder Dieu droit dans les yeux, et l'appeler Abba, Père. Voilà ce que c'est l'eau vive. En d'autres termes, c'est quoi dans la théologie l'homme? Vous avez la réponse très simple. L'homme est un enfant. Voilà. L'homme est un enfant de Dieu. Voilà qui est l'homme. Si on ne va pas jusqu'à l'enfant de Dieu, on nie une partie de l'homme, de l'humanité qui est en soi. Alors, si l'homme est un enfant de Dieu, il est appelé à entrer dans cette relation de confiance avec le Père. quelle que soit sa vie, qui est l'homme? L'homme est un enfant de Dieu. Ensuite, qu'est-ce que la morale chrétienne? La morale chrétienne, c'est d'abord un dialogue de confiance d'un enfant avec son père. Abba, père. Ça veut dire que lorsque je me trouve dans une situation XY, je ne vais pas d'abord aller voir ce que me dit l'Église, pardonnez-moi. Je vais d'abord entrer en dialogue avec le père et lui dire, père, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec ça? Et le père va me parler par le biais, par exemple, d'un pasteur, d'un chrétien, quel qu'il soit, qui va être le reflet du pasteur, qui va savoir poser les bonnes questions et chercher avec la personne ce que le père lui dit. C'est ce que dit le pape François quand il parle du confessionnal, ce n'est pas une chambre de torture. Le prêtre doit demander l'Esprit Saint, dit-il, pour chercher le meilleur chemin qui va correspondre à la personne. C'est ça la morale chrétienne. C'est une morale du dialogue, c'est une morale de la confiance, c'est une morale de l'amitié. À partir de là, je vais poser des jalons concrets pour ma vie. Alors après, bien sûr, je vais aller lire le catéchisme ou comprendre ce que l'Église me dit. Ça sera toujours un éclairage. Mais l'Église ne remplacera jamais ma conscience éclairée, sanctuaire du dialogue de l'homme avec Dieu. Et je vais trouver mon chemin. Et il y a des situations, vous savez, où ce qui est péché pour une personne ne l'est pas pour une autre. Parce que cette personne-là, ce qu'elle vit, elle le vit avec sa bonne volonté, avec tout son cœur et toute sa connaissance, et elle peut vivre que cette réalité-là pour l'instant. Voyez, je pense que ce qu'il y a d'important, si on va prêcher simplement la vérité aux gens, comme on dit, ils vont se soumettre, ou partir au pas de course, foutre le camp, comme on dit chez nous. Parce qu'ils diront, l'Église, la religion me culpabilise, moi ça m'aide pas. Non, c'est pas la vérité. Je l'ai dit, il faut aider à trouver la vérité, que la personne trouve en elle-même. La vérité de sa vie dans ce dialogue, d'abord ce dialogue de confiance avec Dieu, ça c'est important, hein, où je me retrouve faible comme l'enfant faible. Soumettre les gens, c'est possible, mais quand ils sont soumis, ils sont plus responsables et ils vous haïront. Comme dit l'axiome, on peut forcer quelqu'un à marcher, mais on ne peut pas le forcer à aimer marcher. Sentez la différence. Dans ce aimer marcher, c'est moi qui décide. Et je suis convaincu que ce chemin, il est juste et il est bon pour moi. Voyez, à partir de là, c'est gagné. Le ton de l'exhortation du pape, c'est la responsabilité. C'est de prendre conscience qu'on a un chemin à trouver à partir de sa situation singulière. Et ne pas avoir peur alors d'avoir l'audace de faire la vérité sur soi-même. Car un divorce, vous le savez bien, c'est jamais banal. Il y a du bien, il y a du mal, il y a de la lumière, il y a des ténèbres. Et c'est être responsable, c'est de revisiter son passé. En tenant la main de Jésus, je dirais comme ça. En regardant le Père, sous son regard d'amour. Voyez, on peut prendre conscience de qui l'on est que sous un regard d'amour. Si on n'est pas capable de poser un regard d'amour sur la personne qu'on aide, il ne faut pas l'aider. On va l'enfoncer plus qu'autre chose. Alors, que dire de la doctrine et de la pastorale? Certains ont pensé que le pape François avait rompu avec la doctrine pour ne s'occuper que des personnes en difficulté. Ce n'est pas vrai. En omettant la vérité. Je vous cite ce que dit le cardinal Schönborn à ce sujet. La doctrine sans la pastorale n'est que cymbale retentissante. La pastorale sans la doctrine n'est que vue humaine. La doctrine, c'est d'abord la bonne nouvelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est l'annonce de la vérité fondamentale de la foi. Dieu a fait miséricorde. Et tout ce qu'enseigne l'Église, c'est ce message qui se traduit ensuite dans des doctrines complémentaires, dans une vraie hiérarchie des vérités, aussi bien dogmatique que morale. La doctrine est que l'illustration n'est qu'un chemin de montagne, je vais préciser, qui nous montre l'idéal. Vous savez, chez nous, moi je viens d'une région de montagne qui jouxte avec la région de Chamonix. On a les 4000, les 5000, c'est magnifique. Alors il y en a qui ont fait les 4000, moi j'ai jamais réussi, j'ai fait à peine des 3000, enfin bon. Et sur nos chemins de montagne, ben, chacun avance à son rythme, et puis il y a un petit peu partout des petits panneaux jaunes qui nous indiquent par ce chemin vous arrivez encore 3 heures, par ce chemin 3 heures et demie, pas par celui-là parce que vous allez rencontrer un ravin, une crevasse, ne pas passer par ici parce qu'il y a un glacier, enfin, etc., etc. Ben, je me dis, voyez-vous, dans la vie, on est tous sur un chemin de montagne. Qu'est-ce qui nous motive à prendre ce chemin de montagne? C'est le sommet. Ce sommet majestueux qui baigne dans le soleil, recouvert de neige parfois, de glaciers bleutés, étincelants de lumière. C'est le sommet qui nous attire. Mais peu arrivent au sommet. Peu de monde. Alors certains sont à 500 mètres, à flanc de coteau, d'autres à 1000 mètres, à 1500 mètres, à 2000, qui essayent de suivre les petits panneaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? La doctrine de l'Église, voyez-vous, ce sont ces petits panneaux qui nous indiquent où cheminer, quel chemin prendre. Et puis le sommet, ben, c'est l'idéal évangélique, c'est la joie parfaite quand on est dans l'amour, c'est le sommet, c'est les béatitudes. Qui est au sommet? Si cette personne est à 200 mètres seulement, ben, ce qui est beau, c'est de lui dire, ben, tu vois, du sommet, Jésus est descendu jusqu'à 200 mètres. Il te rejoint là et il t'aime là. Et aujourd'hui, à 200 mètres, tu peux trouver ton bonheur. Aujourd'hui, ben voilà, tu n'as fait que 200 mètres, mais c'est pas grave, Jésus, il est là. Il t'aide. Tu vois, on va essayer de regarder les panneaux, c'est juste indicateur les panneaux, mais regarde le sommet, allez, c'est tellement beau, moi je vais t'aider, allez, on continue, on grimpe vers le sommet, regarde, ensemble, on va faire un bon bout de chemin. C'est au fond ce que le pape François appelle, repris de Jean-Paul II, la loi de la gradualité. C'est quoi la loi de la gradualité? C'est en morale, c'est ce que je vis aujourd'hui, ben, j'ai fait 200 mètres, puis j'ai fait tout ce que j'ai pu pour avancer. Puis je ne peux pas avancer plus haut. Voilà, c'est ce que je comprends aujourd'hui de moi-même, de Dieu, de l'Église, avec tout mon cœur et toute ma bonne volonté, aujourd'hui j'en suis là. Eh ben, le Seigneur t'aime parfaitement là où tu es. Voilà, mais on va quand même essayer d'avancer plus loin. Vous voyez, quand le pape parle des unions de fête, comme on dit vulgairement, de tous ces jeunes qui vivent à la colle, ou qui sont peut-être loin de Dieu. C'est ça qui est beau. Là, on peut appliquer cette règle de la gradualité. Il dit, mais il faut partir de ce qui est positif, de l'amour qui est vécu. Car l'amour qui est vécu à ce moment-là est aussi un reflet de l'amour de Dieu. Pour les conduire et leur donner le goût et l'envie du sacrement du mariage. Vous sentez le ton d'Amoris Laetitia. C'est d'accompagner, rejoindre et dire aux gens, Dieu t'aime là où Dieu t'aime là avec ce que tu peux comprendre, ce que tu peux donner de toi-même. Mais on va essayer d'aller plus loin. On va essayer d'aller plus loin au fur et à mesure de tes responsabilités, de ce que tu peux vivre aujourd'hui. Vous voyez, le pape dit, c'est tellement beau, hein, sur ce chemin de montagne, en fait. C'est au fur et à mesure de sa croissance et de sa compréhension de lui-même que l'être humain saisit le bien à accomplir. À un moment donné, ben, là où c'est gagné, c'est quand quelqu'un se dit, je suis à 200 mètres. Non, je peux aller plus loin. Parce que je vois que je peux aller plus loin. Puis j'ai la force d'aller plus loin. Puis je vois qu'il y a un idéal au-delà de celui que je percevais jusqu'à maintenant. Allez, on y va. Vous voyez? Et il faut se réjouir des petits pas accomplis. On sent la joie d'un père qui perçoit dans les situations difficiles le petit pas qui a été possible et qui a peut-être coûté un grand effort. Un plus grand effort que pour quelqu'un vivant sa situation familiale dans des situations très favorables, dit le pape. Que sait-on des efforts parfois surhumains de certaines personnes, qui pour d'autres ne sont pas des efforts, c'est facile, tandis que pour cette personne, qu'en sait-on ? Vous voyez, on a tout l'esprit de la petite voix de Sainte Thérèse, lorsqu'elle dit après, 7 ans de vie religieuse, tenez-vous bien, 7 ans de vie religieuse, me grandir, c'est impossible. Ça veut dire, j'ai tout essayé de plaire à Dieu, j'arrive pas. Derrière ce « me grandir, c'est impossible », il y a tout l'évangile. J'ai peur, j'arrive pas à dépasser mes peurs, c'est impossible. J'ai tout fait pour sauver mon couple, j'ai pas réussi. Me grandir, c'est impossible. Aller plus loin, c'est pas possible. Ou j'ai peut-être été pécheur, ou j'ai peut-être fait des choses qu'il ne fallait pas. Et aujourd'hui, je suis dans l'angoisse, dans le sentiment de culpabilité. Me sortir de là, c'est impossible. Il y a combien de situations où on dit aller plus loin, c'est impossible. Et là, on en plein dans l'évangile, voyez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est devant ces impossibilités ? Soit on se décourage, on plante tout, on abandonne tout. Soit on se met en colère contre soi-même. On se laisse ronger par le sentiment de culpabilité. Thérèse a vécu ça, rongée par le sentiment de culpabilité. Après 7 ans de vie religieuse, elle dit, non mais non, ça suffit. Me grandir, c'est impossible, cette fois, bon, ok. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais m'accepter tel que je suis, avec mon impossibilité. Pourquoi je peux m'accepter tel que je suis avec mon impossibilité ? Parce que Dieu m'aime avec mon impossibilité. On a fini avec ce Dieu janséniste. Dieu m'aime. Et il me rejoint parce que je suis dans l'impossibilité. Est-ce qu'on comprend cela ? S'accepter soi-même. Avec son impossibilité, avec son passé raté, avec son passé marqué peut-être par le péché. Qu'est-ce que je fais avec tout ça ? Je m'accepte, parce que toi Dieu tu m'aimes. Pierre m'aimes-tu plus que ceci ? Pierre m'aimes-tu plus que ce qui s'est passé dans ta vie ? Pierre m'aimes-tu plus que ce regard négatif que tu portes sur toi-même en ce moment ? Pierre m'aimes-tu plus ? Allez Pierre, parce que moi je t'aime plus. Seigneur, tu sais tout de moi et tu sais bien que je t'aime. Voyez, je pense que là, il y a quelque chose de fondamental dans le message de Thérèse. Je reviens sur Thérèse parce que je suis ici et parce que j'aime Thérèse de toute façon, mais il y a quelque chose de très éclairant. Puis après, qu'est-ce qu'elle va dire ? C'est pas un oreiller de paresse, Thérèse. Après, elle va dire, mais voilà, bah, je vais me jeter dans les mains de Jésus, quoi. Puis c'est lui qui me fera monter là où j'arriverai pas. Et c'est vrai qu'il va me faire monter à des hauteurs assez impressionnantes sur ce chemin de montagne. Vous savez, chez nous, il y a même des funiculaires maintenant qui vont jusqu'au sommet des montagnes, jusqu'à 4000 mètres. Il fallait juste le savoir. Ça, c'est les bras de Jésus. Il faut juste trouver le funiculaire, il faut se laisser porter dans le funiculaire. Vous voyez, des fois, on arrive à des situations, on ne sait pas trop comment, mais pourquoi ? Parce qu'on s'est remis entre les mains de Jésus. Mais non seulement comme cela, mais on a fait des efforts aussi. C'est l'escalier de Thérèse où elle dit « Je vais faire tout ce que je peux pour monter les premières marches de l'escalier en mettant tout l'amour que je peux. Mais je ne vais pas me décourager parce que je ne vais pas regarder l'escalier, je vais regarder Jésus qui est au sommet de l'escalier. Abba, Père !» J'ai plus peur. Abba, Père, t'es au sommet de l'escalier. C'est toi que j'aime, c'est toi que je regarde. Même si j'arrive pas, c'est pas grave. Moi, je fais tout ce que je peux pour y arriver. Vous voyez? Après, on a des actes de volonté à poser, des actes de réconciliation, des actes de où on veut vraiment revisiter ce passé, etc., etc. Vous voyez, c'est pas un oreiller de paresse, l'évangile. Hein. Il y a aussi les efforts que je peux faire aujourd'hui, les actes de volonté que je peux poser. Donc voyez-vous, toute la dynamique d'Amoris Laetitia, c'est de se laisser attirer par l'amour à partir de nos échecs. On a tout Thérèse. Regardez Jésus au sommet de l'escalier, là où j'aurais voulu être, puis je suis au fond du gouffre, quoi. Mais je sais qu'il m'aime là, et à un moment donné, c'est lui qui descendra au pied de l'escalier et qu'il me portera jusqu'au Père entre les bras de Jésus, voyez ? mais faire tout ce que je peux, être vrai, être responsable, prendre mes responsabilités, savoir reconnaître où est mon péché. Mais je peux le faire parce que je regarde Jésus. Et Jésus a déjà vaincu mon péché. On reproche au pape de peu parler du péché. Bien sûr, il en parle peu parce qu'il parle d'abord de ce qui guérit le péché. Il parle d'abord d'amour. Parce que c'est l'amour qui attire, c'est pas le péché. Et c'est dans l'amour qu'on peut voir son péché. Et il y a des situations assez limites. Dans l'interview du pape, dans un journal, le journal de Rome, là, il y a une situation qui est très belle. Le pape dit, lui-même François, je prends l'exemple de cette femme divorcée, remariée, qui lors de son premier mariage a avorté, etc. Et lors de son deuxième mariage, elle vit une conversion. Et grâce à cette conversion, c'est quoi une conversion? C'est laisser l'amour nous envahir, tout simplement. Hein? Et grâce à cet amour, elle peut comprendre les blessures de son passé et les péchés de son passé. Elle est divorcée, remariée. Alors, elle veut venir se confesser à un prêtre parce qu'elle sait que dans le sacrement du pardon, il y a une puissance, il y a une force, il y a une guérison, il y a simplement le pardon de ses péchés. Et le pape pose la question, que doit faire le prêtre? Ben normalement, divorcé, remarié n'a pas le droit de recevoir le sacrement du pardon. Et le pape dit, et je le cite, le prêtre, à ce moment-là, doit aller contre la loi de l'Église. Même si objectivement, ce prêtre aurait raison, puisque l'Église le demande ainsi, mais le prêtre, à ce moment-là, doit aller contre la loi de l'Église. Parce que ce qui est important à ce moment-là, ce n'est pas la loi, c'est le salut de l'âme de cette personne qui s'est convertie, qui regrette et qui fait tout pour avancer sur le chemin de la vie chrétienne. C'est extraordinaire. Parce qu'il dit ce qui est important, c'est le salut de l'âme. Voyez là, on arrive vraiment à un exemple type où à un moment donné, c'est le pasteur qui doit discerner en son âme et conscience de ce qu'il doit faire. Et c'est le pape qui le dit. Hein? Il ne faudrait pas s'arrêter à la loi. Saint Paul nous dit que la loi est importante, mais l'amour dépasse la loi. La loi n'est qu'une direction vers l'amour, qui nous aide à faire des efforts et à poser des actes. Et le pape poursuit, ce n'est pas dire que son état de vie, donc cette personne est en ordre, que sa situation sacramentelle habituelle change, mais que le prêtre, qui a le pouvoir des clés, doit décharger cette femme de son fardeau. Ouais, ce que je veux dire, souvent, le catéchisme utilise le terme de désordre dans certaines. Et moi, j'aime bien reprendre ce terme de désordre. Et je dis souvent, on peut vivre bien dans une chambre en désordre. Il y a des gens, dans leur bureau, c'est un boxon pas possible. Vous savez, les papiers sont dans tous les sens. Enfin, ils savent exactement sous quelle pile aller chercher tel document. Ça m'a toujours impressionné, ça. Ils vivent dans un boxon pas possible. Puis c'est des gens bien. Moi, je dis des fois dans la vie, on peut vivre un désordre, effectivement. Quand on ne peut plus remettre en ordre. Mais on peut accepter de vivre dans un désordre tout en étant des personnes saintes. Comprenez? Je pense que c'est important, hein. Là je paraphrase ce que dit le pape, la vie de cette personne sera toujours en désordre, mais elle peut devenir une sainte. Quelle est la chambre à coucher où il n'y a pas du désordre chez nous, chez chacun de nous, chez chacun de vous? Et puis pourtant on dort bien. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important dans la mesure du possibilité de faire de l'ordre, hein, mais voyez donc au point de départ. Qu'est-ce que ça veut? Moi, j'aime bien piquer certains mots du catéchisme, d'autres, je préfère laisser de côté parce que c'est un peu plus. Je pense que notre catéchisme devrait être revisité dans le langage, surtout avec le pape François. Voilà, parce qu'il y a des passages qui sont assez culpabilisants. Autre situation maintenant défendue par le cardinal Schönborn, qui dit ceci. S'il y a eu mariage sacramentel valide, une deuxième union reste une union irrégulière. Il faut le reconnaître, c'est une situation irrégulière. Par contre, il y a toute une dimension du fort interne, c'est-à-dire de la dimension de l'accompagnement spirituel et pastoral des personnes qui cheminent dans une situation d'irrégularité où il sera toujours nécessaire de discerner entre le rien et le tout. On ne peut pas faire d'une situation irrégulière une situation régulière, mais il y a aussi des chemins de guérison, des chemins d'approfondissement, des chemins où la loi est vécue pas à pas. Il y a des situations où le prêtre, l'accompagnateur qui connaît les personnes à l'intérieur d'elles-mêmes, peuvent dire « Votre situation est telle qu'en conscience, en votre conscience et en ma conscience de pasteur, je vois votre place dans la vie sacramentelle de l'Église. » Ce sera toujours le devoir du pasteur de trouver un chemin qui correspond à la vérité et à la vie des personnes qui l'accompagnent, sans qu'il puisse peut-être expliquer à tout le monde pourquoi ils en viennent à une telle décision. Vous voyez, donc la loi n'enferme pas, l'amour dépasse la loi. Je vois déjà sur la piste ce que je vous dirai cet après-midi au sujet de l'accès au sacrement des personnes divorcées et mariées. Et il y a déjà toute une ouverture qui était là bien avant le pape François et même chez Benoît XVI, qui se posait même la question si on devrait, dans les causes de nullité, ne pas introduire la cause de l'absence, du manque de foi au moment de la célébration du mariage de la part des conjoints. Et là, je pense que, effectivement, vous voyez, rien n'est fermé. Alors, j'aimerais prendre quelques petits exemples ou témoignages pour mettre un peu de sel sur tout ce que je vous ai dit. Trois témoignages. Le tout premier, c'est pour illustrer laxisme et légalisme et comment on peut faire appel à la vérité des personnes, à la responsabilité. J'ai un monsieur qui vient me trouver, 69 ans, et il me dit, je sais que vous écrivez des livres, et vous allez me donner la bonne réponse. Vous voyez déjà, et vous allez me donner la bonne réponse. Voilà. J'ai vu quatre prêtres. Le premier, je lui ai demandé, mon père, je suis divorcé, remarié, voilà, est-ce que je peux aller communier? Il m'a dit non. L'Église dit non. Bon. Je suis allé voir un second prêtre qui me dit, chez moi, venez. Quand vous voulez, je vous la donnerai. Non mais, vous voyez déjà les mots, je vous la donne, je vous la donne pas. Non mais, où on en est là? Je vais trouver un troisième prêtre qui, après m'avoir écouté, fait un gros soupir et me dit « Normalement, pas, mais si vous venez, je vous la donnerai. » Je vais trouver un quatrième prêtre, ça se passe au moment de la communion, c'est un tout vieux prêtre là, je vais et je me mets mes mains derrière le dos, je tends mon front et le prêtre me dit « Le corps du Christ » et je lui réponds « Non, divorcé, remarié. » Et le prêtre comprend, il fait un signe de croix après la messe. Il me court après, il me dit « Excusez-moi, je suis confus, je ne savais pas ce qu'il fallait faire, non, c'est quand même pas juste que je ne vous ai pas donné l'hostie. » Enfin, le pauvre, il n'en était plus où il ne savait plus où il en était. Alors moi, j'étais le cinquième. Et il me dit « Est-ce que j'ai le droit d'aller communier ou pas ?» Alors moi, je lui dis d'abord, parlez-moi de votre vie. Et il m'a partagé sa vie, où ça a duré en tous les cas une bonne heure, hein, toute sa vie et tout. Puis bon, j'ai compris certaines choses. Puis à la fin, il me dit, alors mon père, est-ce que j'ai le droit d'aller communier? Et puis trônait au-dessus de ma tête un magnifique tableau du retour du prodigue de Rembrandt. Vous savez, c'est une belle couleur rouge. Hein. Et je lui dis, bah, écoutez, moi, je vais vous poser une question. Ah, est-ce que vous voulez rencontrer Dieu? Vous savez, moi, j'ai beaucoup évolué dans les mouvements charismatiques, ça m'a beaucoup aidé. Des fois, il faut être un petit peu audacieux. Je dis, comment? Je dis, vous avez senti le piège? Là, on est entre le laxisme et le légalisme. S'il dit oui, j'irai. S'il dit non, ben, j'irai peut-être trouver un sixième prêtre. Ou alors, ça va être un laxiste qui va dire, mais pauvre homme, mais bien sûr, vous avez le droit. Je dis, comment? Je dis, oui. Est-ce que vous voulez rencontrer Dieu? Oui. Ok. Alors, je me lève, je m'assieds sur ma chaise à roulettes, six roulettes, et je vais vers lui et je lui plante ma main sur son épaule comme ça, et je lui dis, ben, regardez, voyez, ce tableau qui est en face de vous, ben, il y a vous qui êtes là, et puis vous êtes en train de vous enfoncer en Dieu. Enfin, je vais expliquer comme ça, deux, trois mots. Et je suis parti dans une prière charismatique, improvisée. Je te bénis, Père, d'accueillir ton enfant, de lui révéler la vérité. Enfin, j'y allais. Puis plus le type, il pleurait. J'ai dit, bon, ça marche, ça passe. Voilà, remède homéopathique. Enfin, ça marche. Voilà. Et vraiment, donc, quand j'ai terminé ma prière que j'ai dite du fond du cœur avec le plus de foi possible, il me regarde et me dit, j'ai compris. Je dis, bon. Je n'ai même pas demandé ce qu'il avait compris. Je dis, si, on va se revoir. Puis je lui dis, ok. Ah ben, au revoir. Et puis, des fois, les gens, c'est drôle, hein. Ils se lèvent, ils me disent, enfin, la sécu chez nous en Suisse, c'est terriblement cher. Il y a des franchises et tout. Puis il me donne le nom de sa sécu. Puis il me dit, vous travaillez avec cette assurance-là? Je vous dois combien? Moi, vous savez, je paye une franchise très chère. Je préfère vous payer plutôt que de passer par ma sécu. Qui me dit, moi, je lui dis, écoutez, filez-moi 200 euros, ça suffira. Bon, ben d'accord. Puis après, je ris, bien sûr. Je dis, non, écoutez, les dons de Dieu sont gratuites. Je ne suis pas un médecin. Voilà. Puis je me réjouis de ce qu'on venait de vivre. Et puis, je reçois une lettre. Ça, j'en étais sûr, quoi, deux jours après, où il me dit, ben, voyez, grâce à cette rencontre, j'ai rencontré Dieu. Et j'ai compris que Dieu m'aimait follement. Et je ne l'avais jamais vécu comme ça jusqu'à aujourd'hui. Ce qui m'a permis d'aller lire le catéchisme. Et moi, j'ai décidé de ne pas aller communier à mon fort intérieur. C'est ma conscience, je ne veux pas aller communier, je veux communier à Dieu comme ça. Mais ma femme, par exemple, qui est forcément remariée avec moi, elle a décidé d'aller communier. Voilà. Le choix d'une conscience éclairée. Je prends un autre exemple. Jean et Joël. Ah, une très belle histoire de ces deux tourtereaux qui se marient dans la joie. Et Jean me dit, ah, le jour de mon mariage, tu sais Joël, enfin, je m'appelle aussi Joël évidemment, comme elle, j'ai perçu mais une lumière dans notre mariage. Dieu était là. Puis en fait, ça a foiré, elle est partie, enfin, c'était toute une histoire. Il s'est retrouvé seul du jour au lendemain, il a complètement déprimé. Et il me disait toujours, tu sais moi, ma force a toujours été l'Eucharistie. Et au fond de cette déprime, il dit, tu sais, il ne me restait plus qu'une lumière. C'était l'Eucharistie, j'allais communier. C'était ça où je mourais sur place. Puis ensuite, j'ai rencontré ma nouvelle femme. Et puis voilà, donc on s'est vraiment aimé profondément. Et puis on a construit une maison. Puis on a voulu que notre maison soit ouverte aux pauvres, quoi, ceux qui souffrent justement de solitude. Et voilà, on accueille beaucoup de monde. Et tu sais, je me suis remarié. Mon choix, c'est de continuer d'aller communier. Parce que sans ça, je ne tiens plus debout. C'est toujours ma lumière. Puis j'ai dit, je comprends, ben, c'est beau. J'étais ému, quoi. Et 6 mois plus tard, je reçois un téléphone de sa femme qui me dit, Joël, viens vite, il est en train de mourir. Je dis, cancer foudroyant. Et j'accours à la maison et je vois toujours cet homme couché sur le côté dans sa chambre semi-obscure. Qui me regarde et me sourit en me disant, la lumière, tu sais, elle est toujours là, mais cette fois-ci, je vais y entrer. Et le lendemain, il n'était plus de ce monde. Voyez comment ne pas s'émerveiller d'un cheminement de vie où vous sentez, il y a un autre choix qui a été fait. Ou alors de cette autre dame qui a vécu plusieurs, un peu comme la Samaritaine, d'aventure en aventure, et qui a vécu une conversion et qui me dit, mais tu sais, moi dans ma conscience, je ne vais pas communier. Le Seigneur me fait tellement de bien, je suis là à l'église, je communie. Mais tu sais, quand je vois ces gens qui ont le droit d'aller nonchalamment, moi qui crève de faim, puis je les vois aller comme ça, ça fait tellement mal. Puis un jour, je regardais cette hostie que donnait le prêtre, le corps du Christ. Et tu sais, j'ai vraiment eu le sentiment que Jésus quittait l'hostie et il a venu s'asseoir à côté de moi. Et il m'a dit, je suis là, tu as déjà communié. voyez, on ne peut pas faire des généralités d'un témoignage, mais le témoignage vient éclairer un choix de la conscience. Voyez, donc moi dans ce que j'écris, c'est donner la parole, je dirais, à l'Esprit Saint, à travers des situations diverses, pour éclairer, pour inviter les gens à être responsables de leur vie, pour inviter les gens à poser des choix responsables, éloignés du laxisme ou du légalisme. Comme dit le pape, l'Église a trop souvent pris la place de la conscience des gens. Mais la conscience des gens, c'est un sanctuaire inviolable. Au bout du compte, c'est la personne qui va décider sa vie. On a trop souvent, dit encore le pape, poussé les gens au devoir et pas assez à la confiance en la grâce de Dieu. Dieu est capable de faire des merveilles. De faire des merveilles, mais il faut être juste, il faut être vrai. Il faut être responsable, et je terminerai par ce tout petit témoignage, parce que voyez-vous, pour en ramasser d'autres sur ce chemin entre Emmaüs et Jérusalem, il faut avoir été ramassé soi-même. On ne peut pas aller en ramasser d'autres si on n'a pas été ramassé soi-même. Si on n'a pas été blessé soi-même. Et ce petit livre que j'ai écrit, qui était l'avant-dernier, « Quand nos blessures diffusent la lumière », c'est tout ça que je dis en fait. En livrant aussi mon propre témoignage, parce que je suis moi-même un être blessé. Mais aujourd'hui, grâce à cela, je peux aller vers les blessés. Et peut-être que ma taille en est la parabole. Je ne peux jamais être plus grand que celui qui est en face de moi, rarement. Vous voyez ? Mais c'est ça. Et souvent, je me rends compte que lorsque je vais vers l'autre blessé, Dieu m'a déjà précédé. Et ça, je pense que c'est le sommet, je veux dire, de l'aide qu'on peut apporter à l'autre. C'est en allant aider l'autre, c'est tout à coup l'autre qui me donne la réponse ou la clé de l'aide. Et là, c'est par ce petit témoignage assez beau. Entre Noël et Nouvel An, l'année passée, j'étais invité en Belgique. Enfin non, c'était cette année-là. Pour parler à des ados, parce que moi j'aime bien les ados. C'est un public que j'aime bien. Je suis beaucoup invité pour parler aux ados. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens très à l'aise avec ce public-là. Puis là, on me dit, on m'a invité, aïe, aïe, aïe. Et je dis comment ? Bah oui, c'est tous des ados placés, qui ont été maltraités, abusés. Enfin, ils sont en institution et tout. Je dis, vous auriez quand même pu me prévenir, parce que ça, on ne m'avait pas dit. Bon, bah, j'aurais peut-être prévu le coup autrement, mais enfin, bon, on va s'adapter. Ça veut dire que je ne vais plus prévoir de coup du tout. Je vais essayer de sentir un petit peu à qui j'ai affaire. Et voilà, Mike Vaille. Et je leur ai parlé du cœur brisé, donc dans la première rencontre, à travers mon témoignage aussi. Et je leur ai parlé des abus sexuels. Voilà, j'ai aussi écrit notamment un livre là-dessus. J'ai été invité au Brésil l'été dernier. Je vois le Christ Rédempteur au pied duquel je me trouvais. Où ça, c'est encore une expérience très, très belle, très forte. Je retourne l'été prochain avec des séminaristes pour les booster un peu à faire une expérience de pauvreté dans les favelas, enfin bref. Et je leur parle du cœur brisé en leur disant, mais finalement, arrêtez de vous regarder tout le temps. Vous avez un morceau de votre cœur qui est encore bon. Et on va partir de ce morceau-là, d'accord ? Et après cela, il y a un petit gars de 13 ans qui vient me trouver et qui me dit, vous savez, tout ce que vous avez dit sur les maltraités, moi j'ai vécu ça. Mes parents ne m'aiment pas, mais moi je les aime. Et je ferai tout pour qu'un jour ils comprennent que je les aime. 13 ans. Et puis vous savez, je ne suis pas baptisé, qui me dit. Puis ma mère m'a dit que la première parole, le premier mot que j'ai prononcé à 2 ou 3 ans, c'était Jésus. J'ai dit, ah bon ? Il m'a dit, oui, mais j'ai entendu Jésus. Mes parents ne m'en ont jamais parlé. Et moi, je disais Jésus. Je dis, mais c'était qui pour toi, Jésus ? Il disait, mais c'était quelqu'un. Je sentais Jésus toujours près de moi. C'était comme un ami invisible et je l'appelais Jésus. Et quand je suis allé à l'école et que j'ai vu des dames qu'on appelle les catéchistes nous parler de Jésus, j'ai dit, mais moi, je connais. Puis je leur ai parlé de Jésus. Assez impressionnant. Et puis sur ce, je lui dis, c'est quand même incroyable. Moi, ça me frustre un peu parce que je dirais, mais Jésus, il prend mon job là. Alors bon, c'est quand même à moi à parler de Jésus, puis lui, il passe dans mon dos. Enfin, quand même, c'est frustrant. Puis je dis à cet enfant, je dis, c'est quand même extraordinaire ce que tu me dis. Je dis, moi, je me sens un peu nul comme prêtre, je lui dis. Vraiment, je ne suis pas efficace. Il faut que Jésus, il vienne tout seul parce que, voilà, moi, je ne suis pas efficace. Puis il me dit, mais si, tu es efficace, mais il faut juste comprendre, quand Jésus vient sans toi, il est encore plus efficace, ça va plus vite, ça va encore mieux. Voilà. Alors, cet enfant, moi, je vous le dis, il m'a donné le fil rouge de toute la... de toute la récollection avec ses ados. Je suis parti de là. Et en revenant chez moi, j'étais tellement secoué que j'ai écrit ce livre, Quand nos blessures diffusent la lumière. Et c'est cet enfant, Renaud, il s'appelait, qui m'a donné tout ça en 3 minutes. En 3 minutes. J'ai eu la clé de toute la retraite. J'ai eu la clé de ce livre. Et voyez-vous, donc, c'est tellement important. Comme disait le Seigneur tout à l'heure, c'est vrai que nos blessures, l'Esprit Saint en a besoin pour encourager les autres. Voilà, merci.
Bravo. Mon père, je vous pardonne.
Ah oui.
Alors, vous pouvez aussi le retrouver sur KTO, hein, ce beau film, Mon père, je vous pardonne. Hein, je vous invite à la victime de pédophilie, bien sûr, hein, et comment le frère Joël... en tant qu'infirmier, hein, a accompagné un certain nombre de personnes victimes d'abus sexuels, etc., en particulier de victimes d'un prêtre, hein, cet homme qui a été victime d'un prêtre pédophile. C'est un film remarquable. Et là, vous avez l'interview du frère Joël. Voilà.
Vous allez sur YouTube, Mon père, je vous pardonne, et vous le trouvez. Voilà.
Merci beaucoup, père. Et je vous propose qu'on prenne une fois simplement le refrain, là. Nous sommes le corps de Christ, il y a un micro entonné. Et je vous dis un mot ensuite. Alors.
Nous sommes le corps de Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier.
Merci. On peut prendre maintenant, je vous invite à maintenant... à vous retrouver par un groupe de 5, par exemple, on se retourne à 4 ou 5, c'est-à-dire sur 2 rangées. Sur un petit papier, vous pouvez prendre par exemple la moitié. Il y a une feuille qui est... où vous pourrez rédiger un message cet après-midi, donc vous pouvez la couper en deux et prendre le bas de cette feuille. Et écrire, chacun dit, alors il peut y avoir plusieurs papiers par groupe ou un seul, chacun est invité à dire ce qui m'a touché dans ce qu'a dit le Père Joël ou dans ce qu'a dit Monseigneur Boulanger. Voilà, ce qui m'a touché brièvement, et puis donc on regroupera ces papiers après. Ça. Donc on va se prendre 10 minutes, un quart d'heure, enfin, un petit quart d'heure, oui. Donc, voilà, jusqu'à midi moins 5, on va dire.
Merci. Bien pour votre parole.
Il est arrivé hier soir, alors on va parler de lui. Ah oui, mais ça passe bien, je pense. C'est à la fois concret et
en même temps, on regarde en dessous son interview.
Il n'avait pas vu encore cette interview-là, mais on en a parlé.
Alors, ce jour-là, tous les évêques, on l'a vu.
Cet homme qui était en Russie, il nous dit qu'il a été pris en. Par le pape, régulièrement par le pape a préfacé
la préface sur lui,
et il nous expliquait que en fait, le pape avait dit je vais préfacer,
et un bon témoignage,
son secrétaire est venu. Il y a quelqu'un d'autre, peut-être son secrétaire, parce qu'il le vend régulièrement.
Alors, sur les réseaux sociaux, bon, il y en a qui contestent en disant moi je ne peux pas pardonner à un curé, etc. Mais ce chemin qu'il a fait, il est puni. Mais en même temps, quand il décrit ce qu'il a subi à travers le viol, et le frère Joël qui intervient en infirmier, il a accompagné des personnes qui étaient victimes de viol.
C'est d'ailleurs, son bouquin a été traduit maintenant en 20 langues, je ne sais pas quoi, il est encore en cours de traduction. Ouais. Je le regarderai parce
non,
que
c'est très bon parce que je dirais c'est libérateur.
Voilà, oui, oui.
Les gens se restent là à finir. Il y en a qui verraient leur femme là.
Oui, c'est ça. Ouais.
C'est très beau, hein. C'est bien de l'avoir fait venir.
Oui, en fait, c'est le père Lamran qui nous avait qui nous avait passé son bouquin.
D'accord.
Et on l'a lu, Marie et moi, puis l'autre, et on s'est dit c'est super. Et on l'a appelé. Il nous a dit non, je ne peux pas, parce que ça peut être à une autre date.
Vous savez, c'est ça, oui.
La seule date que vous pouvez, c'est aujourd'hui. On a dit, on a pris le risque, mais puis en faisant ça, on se demande. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu gênant parce qu'il y a des prêtres qui sont.
Oui,
enfin, quand les gens veulent venir, ils peuvent venir après-midi.
Oui, c'est vrai que les prêtres sont pris par les
Jean-Marie Fromage m'a dit qu'il venait cet après-midi.
Cet après-midi.
Oui, oui. Donc, c'est super. Oui. Bon, sinon, vous allez bien?
Ben, ça va. Oui, oui. 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 Pour un peu la course, ça va.
Oui, ça va.
Et vous?
Ça va? Ben, oui, ça va, oui. Oui.
Bon. C'est bien, hein, je crois que là on a. Puis de le faire aussi avec l'orne.
Là on a de personnes.
Oui, oui, oui.
Il y a plus de monde que. L'an dernier on avait été déçu parce que.
Oui, il y en a
un. C'était un peu bizarre d'ailleurs parce que comme il y avait eu un Maurice Laetitia, on s'était dit ça va être le monde. Et ça a eu l'effet contraire.
Ouais,
cette année, bon, on a quand même fait pas mal de communication et du coup il y a quand même une cinquantaine de personnes, c'est bien. Voilà.
Mais voyez, par exemple, cette question hein, des abus sexuels, c'est un drame.
C'est très dur, ouais.
C'est un drame. Or, quelqu'un comme lui ou d'autres pourrait montrer les conséquences. Hein, et les on sent bien que l'Église, bon, alors, on traite derrière nous des casseroles avec la pédophilie, de certains mais en même temps, c'est vraiment une question aujourd'hui de notre société où les femmes s'expriment.
Oui, oui, oui.
Je trouve que l'Église pourrait.
Oui, c'est sûr. Oui, parce que c'est bien les choses. Quand les choses sont dites, ça.
Le chemin comment?
Ça fait déjà un chemin.
Le chemin de guérison. Hein. Ouais. Et c'est vrai qu'on pourrait avoir. Ce thème-là, il est plus large. Mais
oui,
il n'empêche que, il n'empêche qu'il touche
parce qu'on le réduit aux abus,
tout ce qui s'est passé dans les familles.
Oui, oui.
Quand vous entendez.
Oui,
et nos jeunes, et nos. Bon.
Et justement, le père Joël hier, c'est vrai que c'est un des drames de notre société, c'est bon, en dehors des abus sexuels. Les jeunes sont. Beaucoup de jeunes souffrent, enfin, ceux qui se donnent à la drogue.
Et vous saviez, quand on les écoute, il y a une souffrance.
La souffrance.
Ils souffrent aussi de leurs parents.
Ils souffrent de manque d'amour, parfois de séparation.
J'ai dit à une fille à Rome, là, elle a envoyé un texto à sa mère pour lui dire mais maman, je t'aime, papa, je vous aime. J'appelle. Et la mère lui a répondu. J'ai essayé de rencontrer la mère à Rigal.
Oui, on
a. Ah ben, t'as fait des progrès.
Mais je lui ai dit, mais madame, elle souffre.
Oui. Oh, oui, mais elle grandira.
On est dans une société voilà, où tous les, tout ce qui est, on est porté sur ce qui est
or,
et du coup, les gens oublient complètement.
Or, ces jeunes, ils ont soif d'une vie relationnelle.
C'est ça,
quand ils sont écoutés, ils oublient parfois.
Oui, tout à fait. Ouais, ouais.
Ouais, ouais. Mais j'ai senti cette souffrance de cette jeune. Elle voulait enfin rencontrer sa mère, pas seulement avec des textes.
Oui, bien sûr.
Et la mère incapable.
La mère ne comprenait pas.
Pas du tout. Mais
c'est ça.
Mais moi, c'est dur. J'en souffrais. Là. Et cette fille qui vivait, elle m'a commencé par dire, vous savez, moi, je suis gothique.
Oui, d'accord. Oui, hein? Oui, mais c'est aussi, toi, ça manifeste quelque chose. Ouais. Genre, oui.
C'est ça, fermer la
mort. Oui, c'est ça. Se tourne vers les choses
la drogue. Voilà. Et de voir qu'elle a pu exprimer sa souffrance, elle me dit, mais mon père, je retournerai à la messe. Est-ce que vous pouvez me dire dans ma paroisse où il y a la messe?
Vous imaginez? Ouais.
Une fille de 14 ans?
Oui, jamais eu de repère en fait. C'est ça, oui. Si les parents sont
et
pas
les
là,
parents, enfin, son père, on sent que son père il l'aime, mais il est ouais, pauvre ouais. Humainement,
il est démunis,
mais, ouais. Mais la mère incapable de montrer à sa fille.
Oui, c'est ça, oui.
Il y a de ces souffrances et tout ça, ça peut faire partie aussi.
Non,
Dieu, ça peut faire partie de nos rencontres,
oui, oui.
Un thème.
Oui, c'est sûr.
Ouais. Il y a la souffrance affective, mais ouais, elle est tellement diverse.
Ouais, ouais. Oui, on la réduit souvent à tel ouais. Aspect, mais son ultime.
Non, je crois que son témoignage.
En tout cas, c'est super que vous puissiez être là toute la journée.
J'ai essayé, oui, parce que bon, c'est pareil, on est invité pour des célébrations.
Oui, oui,
en plus, en novembre, j'ai été invité aux prêtres, les homélies, etc. Puis, bon, j'ai dit aux prêtres de la cathédrale, tu le fais, et puis voilà.
C'est bien
entre le 11 novembre et puis ici, il n'y a pas de comparaison. Hein.
Je suis content qu'il y ait un
bon groupe. Ah oui,
oui. Ça
élargit. Ah oui, oui, mais ils sont.
Oui, on a toujours. L'an dernier, c'était un peu bizarre. Parce que l'an dernier, il y avait eu un propos. Ils avaient organisé autre chose le même jour. Donc c'était un peu idiot. Donc cette année, on a pris soin de les prévenir tôt. Et c'est sympa. Donc vous jardinez toujours?
Ah oui, en ce moment c'est calme. C'est, non, calme. Oui. C'est à l'intérieur, j'ai des gros spots pour chauffer, pour éclairer la nuit,
hein,
comme font dans les jardineries.
Oui, oui.
Et là j'ai des fleurs qui commencent à émerger.
Quelles fleurs?
Alors j'ai des hortensias.
Oui, d'accord. Oui.
Hein, des hortensias, des rosiers.
Ah oui, d'accord.
Que j'ai planté au mois d'août, qui commence à avoir des feuilles, enfin pas encore à fleurir. Et vous aussi, vous aimez ça?
Ah non,
c'est votre Anne-Marie. Hein.
C'est
je crois qu'un jour je parle avec Anne-Marie parce qu'il se garde.
Moi aussi, il vous en parlera, mais
oui,
c'est un
oui.
Projet important.
Oui, c'est ça.
Avec les bénédictines.
Oui, les bénédictines en ont parlé. Oui,
d'accord. Oui,
oui. Moi, je suis passionné par tout ça, mais je n'ai pas assez de temps.
Elle a réussi à quand même faire travailler ensemble. Donc il y a le père Hegel, je ne sais pas si vous voyez, Pascal Hegel, c'est un petit gris qui était à Notre-Dame-du-Chêne.
Ah d'accord.
Et qui tous les ans, depuis 5 ans, ils organisent une session, ils le gardent, où ils donnent des conférences.
D'accord.
Et cette année, Marie, on y est allé, et Anne-Marie a aussi donné des conférences sur l'aspect médical. C'était sur le cœur, selon il le garde, mais elle, c'était sur le cœur.
D'accord.
Médical, physique, et elle l'a embauché pour parler d'Hildegard, de l'aspect spirituel d'Hildegard, à tout
d'accord.
Le groupe qui porte ce projet.
D'accord.
C'est bien, donc après ça, il y a aussi un projet d'un jardin, donc c'est Loïc de Brotte qui
va.
Oui, oui. Chez les bénédictines, elles veulent faire un petit jardin.
Oh, ben j'irai.
Donc elles vont faire.
Si j'ai un peu de temps.
Donc,
moi, ça me passionne.
Donc Loïc a accepté.
J'attends la retraite pour faire.
Voilà, oui. Donc Loïc a
accepté. J'ai plein de projets. Je dis dans 3 ans, j'ai plein de projets.
Ah,
c'est bien.
Hélène Lisée, donc elle a.
Ah oui, oui, oui.
Elle a travaillé avec eux au.
Comme tu as connu, oui.
comme architecte de projet, enfin pour les aider à construire le projet. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? En fait, c'est parti de elle et puis de. Comment il s'appelle? Vincent Foucault du Parc, je
ne sais pas. D'accord, si vous oui. Et, c'est étonnant aujourd'hui, il y a une attente de.
Oui, c'est ça,
de personnes. Oui. Qui sont éloignés, disons, peut-être de la foi, oui, mais qui ont une attente spirituelle.
C'est ce qu'elle a dit. Donc il faut, alors c'est pour ça qu'elle a dit, bon, il y a beaucoup d'attentes, mais les gens vont un peu n'importe où. Donc il faut remettre une de garde chez les bénédictines.
Voilà,
ça,
c'est bien.
Et en fait, c'est parti du fait qu'on lui avait demandé de faire une émission à RCF. Oui. Et puis c'est une émission dont s'occupe Vincent encore. Et du coup, il s'est passionné pour une de garde, et ça s'est transformé en trois émissions. Et puis il a dit, il faut faire un projet, c'est super, c'est ça. On est en train de prendre de l'ampleur.
Bon.
Et le père Joël est en train d'être converti, si je peux dire, à une de garde aussi.
C'est beau. Mais en tout cas, frère Joël, on a vu votre film, là, Tous les évêques. Hein.
Oui. Ah
vous
bon
féliciterez votre évêque. Hein.
Pourquoi?
Ah ben, à Lourdes, on a vu le film. Hein.
Bon, à Lourdes.
Oui, parce qu'on est quand même confronté. Moi, j'ai encore eu un cas d'un prêtre de 95 ans.
Récemment.
Hein. Ici, il y a quand même eu l'affaire Piquant. Hein. Ben, ça a été là où le seul évêque était condamné.
Ah oui.
L'évêque précédent n'avait pas dénoncé un prêtre.
Ok, ok.
Donc, vous voyez,
c'est douloureux chez nous.
Et on sent bien que tant qu'on n'a pas écouté les victimes, si on ne commence pas par écouter les victimes, si on écoute le prédateur.
Ouais.
Moi, je suis bagarré avec ce prêtre. Je lui ai interdit immédiatement quand je lui ai interdit de célébrer la messe.
Et c'est vrai
même à 95 ans.
Du Piquant,
immédiatement.
Pas conscient de tout ça non plus, hein, je pense que.
Je l'oblige à changer de maison de retraite.
Aïe, aïe, aïe.
Ouais.
Parce que là, il était. C'était. Mais vraiment, si vous voulez, le manipulateur.
Aïe,
c'est le type même du prédateur.
D'accord.
Ouais,
alors là, je vois.
Et ça, c'est terrible, même à 95 ans.
À 95 ans. Ouais.
Et autour de lui, il a toute une cour.
Il a fini par le reconnaître ou...
Ah, il a reconnu.
Il a reconnu.
Devant moi,
j'avais le
témoignage.
Oui,
j'avais pas encore rencontré
donc
la victime.
Donc il reconnaît, mais il reste dans son.
Ah, mais je fais des bêtises, mais enfin voilà.
Oui, d'accord.
Ouais, ça, c'est le type même.
J'ai fait des bêtises.
Oui, c'est ça arrive à tout le monde. Ouais, là, autrement dire.
Voilà.
Oui,
et donc, il fallait voir. Je suis allé voir donc, la paroisse. Hein. J'ai rencontré des responsables de la paroisse. Mais dans sa paroisse, il y a des gens qui nient encore aujourd'hui.
Mais non.
Oui, il y a des gens qui n'arrivent pas à
comprendre. Ah, des gens qui le défendent. Qui le défendent. C'est l'évêque qui a tort. Au fond, c'est l'évêque qui a tort. C'est terrible, hein, parce que.
Il y a des gens qui arrivent à nier, c'est même à la même chose à propos de faire libérer
la Bakhi.
Oui, et il y a des gens qui nient. Parce que c'est vrai qu'il a aussi des aspects lumineux.
De Rouen m'en veut toujours.
Ah oui,
il
y a des gens qui nient, pourtant il y a eu un procès à Rome.
Ah non, c'est terrible.
Parce que c'est des gens qui ont aussi un aspect, qui ont un certain charisme, alors du coup, par ailleurs, comme vous dites, ils sont manipulateurs.
Manipulateurs, ouais. Séducteurs d'abord.
Ouais, ouais.
Manipulateurs, dédoublement de la personnalité.
Ouais, ouais.
Tantôt, il va vous reconnaître, oui, je demande pardon à Dieu. Il ne fait pas d'abord à Dieu de vous demander pardon, c'est déjà la victime.
Ouais, ouais.
Bon. Et alors, il a quand même été secoué le fait que immédiatement je lui interdise de célébrer la messe, alors qu'il célébrait la messe devant tout le monde et les personnes âgées à 95 ans. Or, il y a des personnes âgées à la maison de retraite qui ne comprennent pas. Mais enfin, quand même, à son âge, Monseigneur, vous n'allez quand même pas.
Ah oui, mais
ça montre bien
parce que par ailleurs, c'est aussi une grande souffrance pour tous les prêtres du diocèse. Hein.
Il faut une volonté.
Ça.
Vous imaginez, hein.
Ouais.
Et c'est là que, même entre nous les évêques, il y en a qui ne comprennent pas encore.
Ah oui, d'accord.
Oui, ça j'ai remarqué.
Ouais,
il y en a qui ne comprennent pas encore.
C'est du coup l'évêque de Soissons.
Alors là, bravo. Hein.
Oui,
nous sommes. C'est à nous de nous avoir gardé cette vidéo.
Oui, d'accord.
Mais tous les évêques ne sont pas venus.
Ah, oui,
non. Il y avait le père Barbara.
Bon, lui, il est venu. Oui, il a compris. Ah, ben, il a compris avec un peu tardivement.
Oui.
Mais il a vu la vidéo.
Oui.
Oui.
Mais je veux dire, il y en a qui disent encore, non, ça, c'est à Rome à décider. Il n'avait pas à lui interdire. Il fallait que tu fasses un procès canonique. J'ai dit, je ne vais pas quand même attendre un procès canonique.
Il y a des dégâts qui
moi, j'ai écouté, après, j'ai rencontré la victime. C'est parce qu'on a mis des cellules d'écoute dans nos diocèses. C'est par cette cellule d'écoute que j'ai appris. Or, j'ai découvert
qui avait d'autres victimes. Ce prêtre m'a avoué quand même avoir d'autres victimes. Il y en a qui sont peut-être décédés. 50 ans dans la même paroisse. C'était le maître absolu.
Il était 50 ans.
C'était le patron. Il était pratiquement dans le bocage. Alors cette paroisse, c'est Lassie. L-A-2-S-I. Hein, c'est tout près de Vire.
Oui, d'accord.
Vous imaginez, les évêques successifs ont essayé de le faire bouger. Non, c'était le pape dans sa paroisse.
Oui, d'accord.
Oui. Pouvoir économique, pouvoir spirituel. Bon, il a marié les gens, il a baptisé les gens. Donc, notre curé.
Oui, oui.
Alors, il y a quand même, quand j'ai rencontré les paroissiens, il y en a quand même certes, des femmes qui m'ont dit, on en était sûr.
Ah oui.
Ouais, et d'autres disent, mais non, moi je suis organiste, c'est grâce à lui que je suis organiste qu'il nous donnait des cours d'or.
Ouais. Ouais, ont toujours un côté.
Les divisions qu'il peut y avoir dans une paroisse.
Ouais.
Alors, un homme est venu me trouver après en me disant, moi j'ai été abusé.
Ah oui, d'accord, ouais.
Mais il y a 40 ans.
Ouais.
C'est incroyable. Hein.
C'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à parler, comme vous l'avez fait dans votre interview, du viol.
Voilà.
Pas seulement les prêtres, mais les conséquences pour les personnes.
Et puis pour aider les gens, il faut trouver
Pour aider les gens. Et je vois, j'ai accompagné des femmes qui ont été violées par un père. C'est terrible, terrible. Ils ne peuvent pas dire à Dieu père.
Oui, oui, non, mais c'est vrai, c'est ça. Ben, on s'en sort jamais de ces trucs.
Si, oui. Or, le drame de beaucoup de prêtres, vous l'avez dit dès le départ, ces jeunes prêtres sont hyper fragiles.
Voilà. Mais je sais.
Pas structurés psychologiquement.
Et ils sont rigides.
En déséquilibre. Et du coup, compensent en rigidité et en nombre de cierges qu'il faut mettre.
C'est dans le séminaire qu'il faut agir.
Oui, mais là, et on voit bien qu'il y a tout un suivi psychologique et même psychiatrique à faire dans les séminaires.
Ah oui. Moi, je voulais les donner à des jeunes.
D'accord.
En lien avec le synode, il les refait. Donc.
D'accord. Oui, je le donnerai.
C'est pour des jeunes.
Je le donnerai à mes deux jeunes, aux jeunes séminaires.
Mais c'est pour des petits jeunes qui sont même pas au séminaire. Moi, il y a des jeunes de 15 ans.
On va ramasser les feuilles.
J'en accompagne. À Rome, là, j'étais encore avec 240 jeunes.
Bon,
j'avais 50 ans que j'étais avec des jeunes.
Il y a une autre séminaire.
Je vous invite à.
Ce que vous avez dit, par exemple, avec des ados, on peut être devant 200 ados. Et je leur rappelle la confiance, Jésus, la confiance en toi.
Il y a un silence, c'est dingue.
Moi, ça, c'est important. Je vous invite à aller déjeuner donc avec votre pique-nique. C'est juste en face. La porte en face, au bout du couloir à droite. Donc, il y a une grande salle qui s'appelle la salle Frappard. Et si elle n'était pas assez grande, on dispose aussi de la petite cafétéria qui est à côté.
Donc on se retrouve. Merci, frère. Donc
merci à vous.
S'il vous plaît, vous donnez les petites feuilles où vous avez écrit des choses. Et puis ensuite, on se retrouve en face.
Pour l'apéritif d'abord. Est-ce que vous avez vu, c'est pas du tout au contraire. C'est tout à fait dans le sens. Si vous avez vu ça, cet article du pèlerin, ce qu'on vient de recevoir. C'était juste, donc, juste à ce propos-là. Et justement, ça reprend un petit peu. L'aspect dans l'article derrière, c'est toujours le même, hein, mais c'est juste là l'important au niveau des divorcés et remariés. Ça reprenait un petit peu le cheminement cette ouverture. Mais en fait, notre problème, c'est, je dirais, pas la règle, mais comment dire, la méthode. Comment on y parvient pratiquement, qui rencontre, comment pouvoir faire ce cheminement, comment pouvoir être conseillé dans ce cheminement, c'est tout cet aspect-là.
C'est magnifique.
Parce qu'on en est bien conscient.
Oui. C'est magnifique.
Oui.